les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Salut à tous et à toutes. C'est le printemps, bien avancé même. Orgie d'oiseaux et journée qui s'allonge. C'est bon le printemps. C'est le renouveau. Le moment du ménage, on dégage nos maisons de toutes ces choses qui servent à rien. On fait la poussière dans les recoins. Le ménage est une activité singulière, si nécessaire et pourtant méprisée. De ménage, il sera bien question dans ces ondes buissonnières, justicières, en soutien aux travailleuses du nettoyage. En sous-traitance, dans les hôtels ou les bureaux vitrés des grandes cités, l'invisibilisation qu'elles subissent, les corps meurtris par la tâche et les horaires impossibles, combine ça avec une vie de famille, tiens. Et dès l'aurore, déjà levée, les horaires décalés qui ruinent le corps, la pression, les cadences, la surveillance, au ras du tapis les salaires, et au bout de la journée à nettoyer, une deuxième journée commence. Qui peut supporter ça? Il faut ne pas avoir le choix. Alors il faut dire et redire l'injustice de ces situations-là et faire entendre les moments bienheureux où enfin ça pète et où la lutte s'organise et gagne. On écoute ça en version belge, des voix, des accents magnifiques. Ça s'appelle « Clean My Rights ». C'est un documentaire en 2 épisodes de Lou Lampart, Nadia Vossen et Juliette Cordemans.
On nous considère comme de rien.
Tu sais même pas pour qui tu travailles.
Elles courent comme des poules sans tête.
Clean my rights.
Externaliser, c'est mettre dehors.
Épisode 1. Poussière sous tapis.
Moi, c'est Nadia. Je suis ouvrière. Ça fait presque 13 ans que je travaille dans le nettoyage. Je travaille dans plein de chantiers chez ISS. Et le dernier chantier actuellement, c'est dans une université. C'est pénible par rapport aux horaires. C'est 6h du matin, 6h du matin, tu dois commencer le travail, tu dois être ici. Et ça veut dire, de chez toi, tu dois se réveiller à 4h30, 5h. Alors, quand on rentre chez nous, on est cassé, on est KO.
Les poules sans tête.
Imaginez-vous qu'il y ait ces filles qui partent à 9h, qui commencent à 9h, elles sont parties à 5h de chez elles. Elles arrivent chez elles le soir à 23h, elles ont les maris, elles ont les enfants, mais après elles ont 10 euros la journée. Je suis Evelyne, je fais partie du comité de la CSC et de la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC. J'arrive dans le nettoyage par hasard. Quand je dis nettoyage, c'est femme de chambre dans les hôtels. Donc, j'ai travaillé dans les hôtels dans toute la Belgique, en fait. Des fois, vous pouvez partir le soir, on vous dit qu'il y a 80 chambres. Vous arrivez le lendemain, on vous dit qu'il y a 150 chambres. Alors que quand on a dit au sous-traitant la veille qu'il y avait 80 chambres, il envoie le nombre de filles en fonction du nombre de chambres. Donc, tu t'imagines des filles qui peuvent faire 3 chambres en une heure, c'était impossible. Moi, j'ai coutume de dire que c'est le plus grand des sports parce que tu travailles dans toutes les positions. Tu te mets à genoux, tu te mets couché pour faire sous les lits, tu te mets à quatre pattes, tu montes sur les échelles. En plus, dans cet hôtel-là, tu avais des lits superposés. Donc, il fallait pouvoir faire les lits du haut. Donc, tu dois descendre les matelas, tu dois monter sur le lit. Donc, les femmes sont terriblement épuisées. Elles pleurent. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une femme dans un coin qui ne pleure pas. Donc, tu dois souvent laisser ton travail pour prendre les femmes dans tes bras, en fait. Donc, le travail est hyper, hyper difficile. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress parce que vous avez le directeur de l'hôtel, l'adjoint du directeur, la gouvernante, l'inspectrice, tout le monde derrière. On veut les chambres, on veut les chambres. Donc, tu travailles et tu ne travailles pas bien parce que tu cours et tu cours et tu cours.
Les travailleuses courent comme des poules sans tête sur les chantiers parce qu'elles doivent arriver en un court temps à faire tout et toujours plus en plus. Mais je dois être sûre de finir à temps pour pouvoir remonter dans ma voiture, pas avoir de bouchon, aller chez l'autre client. Je ne dois pas arriver en retard, sinon je me retape encore un autre avertissement. Et pour finir, c'est une pression dans ta tête que ben, tu ne fais plus attention, tu avances, tu ne fais plus attention, tu trébuches dans tes prises, tu trébuches dans un tapis qu'elle a depuis 20 ans. Mais voilà, parce que tu avances sans réfléchir. Tu prends plus le temps d'analyser le risque sur le chantier. Et puis, ben, ils s'étonnent qu'ils ont des accidents de travail. Ben, il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Hein. Mon nom, c'est Mathie Catherine. Je suis permanente à la centrale générale FGTB de Charleroi. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. J'ai tout de suite commencé à travailler dans le nettoyage. Donc, j'étais technicienne de surface, j'ai compris que si je ne m'engageais pas syndicalement, ça n'irait pas. Et du coup, je suis devenue déléguée syndicale. Et ensuite, je suis passée permanente pour le secteur titre service et nettoyage.
Moi, les gros problèmes que j'ai eu avec le sous-traitant, c'était le manque de matériel, le manque de respect, le manque de salaire parce qu'il ne payait pas les salaires. Beaucoup se plaignent de la sous-traitance, en fait. Parce que malheureusement, la sous-traitance, c'est souvent les personnes vulnérables. Et les patrons, sachant que c'est des personnes vulnérables, se permettent tout, en fait.
On va parler de sous-traitance dans les situations où on va avoir un intermédiaire, une entreprise qui fait travailler pour une autre entreprise des salariés, pour le dire vite. Donc c'est une relation triangulaire dès qu'il y a ça, c'est-à-dire dès qu'il y a une entreprise qui commande à une entreprise quelque chose pour elle. Donc je suis Julie Valentin, je suis enseignante-chercheure à l'Université Paris 1. Je travaille sur toutes les questions de mobilisation du travail, la sous-traitance en particulier, et au sein de la sous-traitance, depuis quelque temps, sur les salariés du nettoyage.
Bonjour. Moi, la tendinite, ça commence au niveau de mon bras et j'ai un début d'hernie discale. Les maladies maintenant professionnelles, c'est les tendinites, le dos, les hernies discales. Et même des maladies respiratoires aussi, de l'asthme. C'est à cause des produits qu'on utilise tous les jours, parce qu'on utilise des produits qui sont agressifs.
Moi, je garde encore les douleurs jusqu'à aujourd'hui. Moi, par exemple, vous voyez, je tout saute. J'ai consulté beaucoup de médecins pour ma jambe, pour mon poignet, pour ma gorge.
Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est parti, qui a fini le service en bonne santé. Non. La plupart des ouvriers et les ouvrières partent directement, soit avec un handicap, soit ils ne sont plus là.
un système bien rodé.
Il faut savoir que normalement, un travail de femme de chambre, quand elle est déclarée, elle touche 13 euros et quelques de l'heure. Mais la femme de chambre non déclarée, comme la majorité, elles sont payées à la chambre, au nombre de chambres. Ça veut dire, tu vas arriver, ça dépend de l'hôtel, ça dépend de la tête de l'inspecteur, ça dépend de la tête du sous-traitant qui te dit, vous êtes payé 3 chambres 10 euros, c'est 3 chambres de l'heure. Hein. Ça veut dire, tu dois faire 3 chambres pour avoir 10 euros. À l'inspection du travail, ils m'ont dit que normalement, je dois compter l'horaire de travail à partir du moment où je monte dans la camionnette. Donc, si moi, je compte ça, c'est de 6h30 à 22h. Et je crois que la plus grosse journée que j'ai faite en termes de sous, c'était, je ne sais pas si j'ai atteint déjà 50 euros, de 6h30 à 22h.
Je m'appelle Louis Van Gineken et je suis journaliste indépendant depuis 4 ans. Je travaille régulièrement avec le magazine Médor. Le secteur du nettoyage est particulièrement concurrentiel. Donc, comme il y a énormément d'entreprises qui se disputent les mêmes clients, bah, la technique, c'est de proposer des prix moins chers que les autres. C'est comme ça qu'on aura le contrat. Sauf qu'il n'y a pas 36 façons de proposer du travail moins cher pour le même service. Mais donc, évidemment, ça se reporte sur les travailleurs, qui vont donc être payés moins. Il y a toute une série de stratagèmes, donc de fraude sociale organisée, c'est-à-dire qu'ils vont soit payer au noir certains travailleurs, les mettre en chômage temporaire ou technique, en congé sans solde, etc. Donc ça, c'est une série de mécanismes qui permettent, en fait, d'économiser de l'argent, à la fois de payer moins cher les travailleurs et surtout de ne pas payer les charges sociales patronales, donc c'est-à-dire ce qui va à la sécurité sociale. Et donc, une entreprise va déléguer à une autre entreprise qui va déléguer à une autre entreprise, et ainsi de suite. Et donc, parfois, on a des dizaines de chaînons de sous-traitance, quoi. Et donc, c'est le moyen parfait pour, en fait, perdre la trace des travailleurs et donc, en fin de compte, employer des travailleurs qui sont en situation irrégulière, des travailleurs étrangers qui ne parlent pas la langue et donc qui ne sont pas capables de comprendre les consignes, par exemple, ce qui va entraîner des accidents du travail, qui va faire qu'ils sont moins à même de se défendre socialement quand il y a des abus dans leurs conditions de travail, par exemple.
Quand tu vas travailler normalement, on te demande ta pièce d'identité pour te faire un contrat et ils ne te demandent pas. Ils te disent tu commences quand, tu travailles quand. Moi, comment j'ai su, c'est le bouche à oreille. Les gens avec qui j'avais fait dans l'hôtel ici à Bruxelles qui m'ont dit ah, mais il y a un hôtel qui ouvre, tu peux appeler tel. Tu travailles, tu commences à travailler. Tu ne connais même pas pour qui tu travailles. Ils font quelques contrats à certaines, mais c'est des contrats de 2-3 heures. Elles travaillent comme nous de 6 heures à 22 heures, mais elles ont 2-3 heures au cas où il y a un contrôle. C'est n'importe quoi. Toutes les femmes de chambre sont étrangères, en fait. Moi, partout où j'ai travaillé, il n'y a aucune femme de chambre belge. Si tu vois une belge, elle est la patronne, elle est... Les filles qui travaillent dans les hôtels en Belgique, beaucoup, c'est les filles de l'Europe de l'Est. Elles sont comme des machines, elles travaillent comme des machines, dont elles devaient être valorisées, mais elles ne sont pas valorisées. Ce sont des filles qui arrivent au travail le matin, elles ne disent pas un mot. Les seules pauses qu'elles prennent, c'est pour fumer leurs cigarettes. Elles travaillent comme elles sont traitées, ce sont elles qui sont violées, ce sont elles qui sont... Les filles de l'Europe de l'Est, ce sont celles qui subissent le plus de ces violences au travail, dans les hôtels. Encore une fois, on revient à l'hôtel.
Pour le néolibéralisme, le corps performant est celui d'un homme blanc en pleine possession d'une force physique normée comme masculine, qui se lève tôt, fait son jogging, mange bio et travaille sans compter ses heures à sa réussite économique. Ce que cache cette représentation du corps valide, c'est que sa performance est rendue possible par le travail de corps racisé, les femmes de ménage qui ont nettoyé sa salle de gym, ses bureaux, la maison où il retrouve sa famille. Toutes ces femmes qui sont rendues invisibles et dont le corps s'épuise pour que le sien s'épanouisse. Françoise Verguez, un féminisme décolonial.
Aujourd'hui, dans les marchés publics, c'est quoi? On s'en tape hein, de comment ça va être fait et comment ils vont nous le vendre et comment ils vont le faire et dans quelles conditions ils vont amener les travailleurs pour le faire. Ils s'en tapent hein, dans les marchés publics. Et c'est celui qui a rentré le prix le moins cher qui aura le contrat. Mais ça veut dire que ceux qui octroient les contrats, ils savent hein, que dans le nettoyage, il y aura de la fraude. qu'il y aura de la sous-traitance, qu'il y aura du travail au noir, qu'il y aura des sans-papiers, que dès que les gens seront malades, c'est pas je te vire et tu vas ailleurs. Et donc ces gens-là, c'est un peu sournois de dire c'est pas nous les responsables. Et si je dois faire des économies dans mon budget au niveau public, j'irai le chercher dans la sous-traitance. Les gens, c'est pas de chez moi, je m'en tape. Je vais aller chercher dans le nettoyage. Moi, je dis tout le temps, le citron compresse. Hein. Tant qu'il y a du jus, je t'utilise. Et puis après, si t'es plus bon à rien, je te jette.
Alors, l'externalisation, c'est effectivement emblématique d'une dévalorisation sociale. On voit bien dans le terme. Externaliser, c'est mettre dehors. La sous-traitance, elle raconte quelque chose du rapport au travail et de l'idée qu'on se fait de comment la relation de travail doit se construire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelque part, on achète des heures. On n'est plus dans une relation d'emploi. Une relation d'emploi, ça va être quelque chose qui vous donne une place dans une société. Vous allez dans votre travail, vous y appartenez à une communauté, vous avez des collègues, vous êtes dans un lien qui est votre... C'est une partie de votre vie, mais très instituée, avec vraiment tout le cadre qui va avec. Lorsque vous êtes dans l'exemple du nettoyage, on voit bien qu'on se retrouve à acheter des heures. On est en train de construire quoi ? Le véritable marché du travail. Non pas cette relation spécifique qui reconnaît que le travail, c'est quelque chose qui est une partie de votre vie et qui vous donne votre place dans la société. On pourrait vraiment s'interroger sur le fait que dans le nettoyage, finalement, ce soit du prêt de main d'œuvre. Moi, je la laisse ouverte, cette question.
Plus il y a de la sous-traitance, eh bien, plus les conditions de travail sont mauvaises dans la société. Parce qu'on sait que la sous-traitance utilisée dans le nettoyage, c'est juste un moyen de détourner la réglementation du nettoyage. À chaque renégociation de contrat, à chaque renégociation, il y a une diminution du temps de travail. Productivité. Le client, il veut diminuer sa facture. Donc le donneur d'ordre, il fait un appel d'offres. L'entreprise remet un prix. Et chaque fois, de contrat à contrat, les conditions de travail se détériorent, que ce soit dans la surcharge de travail, dans le temps qui est donné. En fait, les utilisateurs, ils veulent payer vraiment un minimum, mais avoir une qualité en or. Et ça, on dit, c'est juste pas possible, quoi. Si tu payes pour un contrat de merde, t'auras un résultat de merde.
Une machine est programmée de 6 à 1h30. Ah bah toi aussi, tu dois être comme une machine. Même quand tu arrives à terminer avant, tu n'as pas le droit de se reposer. Tu n'as pas le droit de prendre un café. On est contrôlé tous les jours, presque tous les jours. Et les responsables abusent avec leur pouvoir pour massacrer l'ouvrier. Par exemple, vous rentrez dans une classe, c'est vraiment les petits détails, les golottes. S'il y a des taches, s'il y a de la poussière. Mais c'est ça leur contrôle. Le nettoyage, surtout là, je veux parler pour les ouvriers, sont mal vus. C'est un travail qui, je sais, on nous considère comme de rien.
Moi, un jour, j'ai tout cassé. Dans une chambre, j'ai tout balancé. Je suis tombée dans les pommes aussi. Moi, je me suis retrouvée en train de... Tout le monde me versait de l'eau dessus. Et j'étais pas la seule comme ça. Moi-même, j'ai versé de l'eau à beaucoup qui tombaient. Tu vois, une qui... Le regard commence à fuir. Tu lui dis, assieds-toi. Tu lui donnes n'importe quoi de sucré que tu as. On faisait comme on pouvait, en fait. Ça arrivait souvent. C'est des femmes qui n'ont pas le choix, en fait. Elles se disent toujours, je préfère avoir 10 euros pour acheter du lait à mes enfants que de n'avoir rien du tout. Donc elles souffraient en cachette, elles revenaient le matin, le lendemain. Certaines ne revenaient pas, mais beaucoup revenaient. Je ne sais pas comment décrire ce monde-là. C'est un monde que j'ai découvert... Je ne savais pas que les femmes avaient ces problèmes-là, en fait. C'est un monde qui me rebelle énormément. Je me dis comment on peut vivre dans un monde où les gens ne voient pas cette réalité.
Merci à Evelyne, Nadia, Catherine, Julie et Louis. Certains noms étaient modifiés afin de garantir l'anonymat. Avec la guitare de Dan Samir Morillo. Un podcast réalisé par Juliette Cordemons, Lou Limpart et Nadia Vossen.
C'est un métier qu'on n'attend pas, qui est invisible.
Un accès au permis de travail.
Parce que c'est l'organisation du travail qui fait que c'est pénible.
Climat Rights.
Et les camarades, ne baissez pas les bras.
Épisode 2.
La lutte, ça paye.
Bagarre et feu de joie.
Je suis Evelyne, je fais partie de la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC. Ils ont tous les pouvoirs, hein, les patrons ici. Quand ils embauchent les personnes sans papier ou alors des personnes sans contrat, tu ne peux pas te plaindre. Moi, j'ai eu le courage de porter plainte. Les autres ont complètement refusé parce qu'elles ont peur de porter plainte. On a coutume de dire que tu pars en tant que victime et tu sors comme détenue ou bien tu te retrouves au centre fermé. C'est exactement ça.
Le fait que ces gens-là, ils sont isolés, ils n'ont pas beaucoup de connaissances de la réglementation. Ils pensent que le seul qui détient le pouvoir, c'est l'employeur. Ils se taisent. Et ils n'imaginent même pas qu'en se réunissant et en faisant du collectif des problèmes individuels, qu'ils peuvent améliorer leurs conditions de travail. Mon nom, c'est Mathie Catherine, je suis permanente à la Centrale Générale FGTB de Charleroi. Moi, le cri du cœur en tant que permanente et venant du secteur, c'est toujours celui de renseignez-vous, transformez le côté individuel en collectif. Aujourd'hui, le rapport de force, il est dans les mains des travailleurs, mais pas toute seule sur un chantier, c'est du collectif.
L'étincelle.
Pour avoir la paye du mois d'octobre, on a dû aller se garer chez le responsable de le sous-traitant à la maison. Un jour, en rentrant de Rochefort avec toutes les filles dans la voiture, on a dit au chauffeur, tu ne nous ramènes pas à la gare de l'Ouest. On lui a demandé s'il savait où il habite. Il nous a dit oui. On lui a dit, tu gares devant chez lui et tu l'appelles. Donc, il a garé devant chez lui. Il l'a appelé en disant, je suis avec toutes les filles. Elles disent que si tu ne payes pas, elles ne travaillent pas demain.
Donc, à quel moment les salariés du nettoyage vont se mettre en mouvement? C'est quand il y a une question de dignité. Le minimum qui est requis est dépassé. On peut accepter beaucoup de choses, mais il y a une limite à la dignité.
Donc, je suis Julie Valentin. Je travaille sur toutes les questions de mobilisation du travail et depuis quelque temps sur les salariés du nettoyage.
Ivanici, ok. You want to be our spokeswoman for the league? Super. Ah, you can also come and demonstrate. Hein? On va Ivanice, notre représentant. Donc, on va préparer. Il va falloir que je fasse la traduction en portugais, je serai pas là.
Ok. Circo. Espagnol.
C'était une manifestation. On marchait en marchant, je me disais, ben Evelyne, tu as souvent vu ça à la télé et aujourd'hui, tu y es. Parce que des fois, je voyais à la télé, comme je disais, je suis casanière, je me disais, mais je peux aller assister au truc antiraciste. Je peux aller assister. Mais j'étais dans mon canapé quand je disais ça. Et pour une fois, j'étais là. Et j'étais devant, je tenais les trucs, donc j'étais trop contente. Je me suis dit, c'est le début de quelque chose, et ça a été le début de quelque chose.
Nous avons supporté tant de longues nuits de travail et de souffrance, tant de sombres et horribles jours sans pain, que lasse d'entendre le cri sec et déchirant de nos enfants affamés, lasse de tant de misère et de douleur, nous nous sommes décidés à faire entendre notre voix. Non plus comme une lamentation ni une supplication plaintive, mais comme une revendication ferme et énergique. Tout est à toutes et tous. La rédaction de La Voix de la Mourelle, 1896.
La grève.
Je suis fatiguée et je nettoie vos toilettes, je lave vos assiettes sales, je vous prie de vos bras pour euros et par heure. Je suis la jeune,
je suis mariée, je n'ai pas de jour de condé, je travaille 24 heures, 7 jours par semaine de ma mère. C'est très dur pour moi. Je suis née du sable, je suis une bonne depuis le mille.
Nous sommes membres de la Ligue de travailleuses domestiques sans papier. Le 16 juin est la journée internationale du travail domestique. Le 16 juin dernier, nous avons monté notre propre parlement.
Pour legal pay matters. Because, you know, not all employers give a right salary. Some employer they give a 10 euro per hour. It's not enough. Like if 14 or 15 euros like that per hour is okay. Yeah.
We want a work permit. We want a work permit. We want a work permit.
Elles ont dû faire grève. Et si aujourd'hui elles sont entre guillemets une petite vingtaine, elles étaient bien plus nombreuses à préparer cette grève pendant près de 9 mois. Certaines ont pu négocier avec leur patron la nécessité de faire grève. D'autres, malgré leur motivation et leur présence aux réunions préparatoires, ont été empêchées de venir au dernier moment. Le risque de perdre leur travail était trop lourd, car « no work, no pay », comme elles disent. Donc je vous prie, mesdames, messieurs, d'accueillir chaleureusement la Ligue des travailleuses domestiques avec Ribeiro, Ivanetche, Sapio Chin, Bautista Betty, Loé Lucinde, Ayong Evelyn, Takawa Nancy, Rosalie Aurora, Hernandez Myriam, Canapé Marie-Jane, Elmera. Mesdames, prenez place à vos sièges légitimes.
La Ligue, c'est un groupe de femmes travailleuses domestiques qui se battent pour leurs droits, tout simplement, qui essayent de trouver des solutions à leurs conditions de travail, à l'exploitation qu'elles subissent au travail. La Ligue des travailleuses domestiques, c'est un peu la Ligue des travailleuses exploitées.
Nous allons maintenant passer aux revendications. Mesdames, s'il vous plaît, c'est à vous.
Un accès à une protection tout au long du procédure des plaintes.
Un accès au permis de travail.
Je commence à comprendre ce que ces dames me disaient un peu plus tôt à propos des hommes politiques. Ils sont, selon elles, sourds, muets et aveugles. Sourds à leurs revendications. Muets quand il s'agit de prendre position, et aveugles à la valeur de leur travail.
Le combat paye, la lutte paye. Pour arracher les droits, il faut se battre. Et nous, à Ibis des Batignolles, c'est ce qu'on a fait. Pendant 22 mois de lutte, au final, le groupe Accord a cédé à nos revendications. Aujourd'hui, je suis là pour porter soutien avec mes camarades de nettoyage qui sont en grève pour leur dire « Ne lâchez rien !» Dans la lutte, on lâche rien parce que si vous lâchez, vous allez donner courage au patron de vous piétiner. Parce que ce sont nous. La Belgique n'est rien. Sans nous, la France n'est rien parce que c'est nous qui nettoyons. Et les camarades, ne baissez pas les bras. La lutte, ça paye.
La lutte a payé à l'hôtel Ibis des Batignolles. Cet hôtel parisien a été le théâtre d'une lutte sans précédent. Les femmes de chambre y ont fait 22 mois de grève pour de meilleures conditions de travail. Fortes d'une victoire, ces nettoyeuses sont devenues symboles. Rachel Keke est l'une de leurs porte-parole. Elle a été femme de chambre pendant 15 ans et siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
C'est un métier qu'on n'attend pas, qui est invisible. Aujourd'hui, ma présence à l'Assemblée nationale rend ce métier visible. Les gens en parlent. Les médias se sont vraiment intéressés à voir, moi, une femme de chambre, d'autres mélangées, femme de chambre, femme de ménage, gouvernante. Moi, tout m'allait du fait que je suis là pour les métiers essentiels et que je disais, je représentais la voix des sans-voix. Après les élections présidentielles, que le président de la France insoumise, Chevillon-Larue, m'a proposé si ça m'intéressait d'être candidate. Candidate de quoi? Il m'a dit pour les législatives. Il a dit, moi? Il dit, oui. Il a dit, mais j'ai un niveau CM2, je ne sais pas parler. Comment est-ce que je peux être candidate pour les législatives? Il a dit, oui, parce que tu es une combattante. Je sais que tu peux nous représenter au sein de l'hémicycle. Et il dit, pourquoi pas, si vous voulez, la lutte continue, même ça continuera au sein de l'hémicycle. La lutte est paye et la lutte, c'est une force. Donc, franchement, on a été tellement fiers. On était tellement fiers de nous. Et puis ensuite, c'est des femmes racisées, des femmes qui n'ont pas l'habitude de faire la lutte, qui voient la lutte, mais qui ont peur de faire la lutte, qui ont peur de parler et qui se sont vraiment organisées, qui se sont mises ensemble. Je pense que cette grève nous a donné notre place.
La Ligue, l'impact que la Ligue a eu dans ma vie, c'est de me faire rencontrer des chouettes femmes, en fait. Parce que toutes ces femmes-là sont chouettes. Ça m'a donné un but. Ça m'a donné un grand but. Ça m'a fait devenir une autre femme, en fait.
Il faut mettre la musique sur le piquet des grèves pour danser. Ça vous unit, ça vous. Ça fait que vous êtes encore plus fort. Et un groupe WhatsApp où tout le monde est inscrit dessus. Et quand elles rentrent chez elles, elles s'appellent entre elles, elles mettent des messages sur le book entre elles et chacun donne son avis. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut arrêter? Qu'est-ce qu'on décide en groupe? Ça aussi, ça donne la force.
L'union fait la force. C'est une évidence. Toute seule, tu peux rien faire.
L'alarme a sonné.
Quel que soit le travail qu'on te donne, la personne qui te donne le travail doit te donner les moyens pour bien le faire et doit te payer à la fin. Donne-lui une assurance, parce que c'est des accidents tous les jours. Paye son salaire. Parce que même quand il y a la souffrance, quand il y a le dur labeur, quand tu es bien payé à la fin, on dit chez moi, ça essuie ton front. Donc, pour moi, le travail idéal, c'est bonnes conditions de travail, respect et bon salaire.
dans le secteur du nettoyage, vous n'avez même plus la possibilité de partir à la prépension puisque vous avez des travailleuses à temps partiel. Et donc, si je dois, pour partir à la prépension, justifier 40 ans de carrière, si j'ai travaillé à temps partiel, c'est 40 demi-années. Et donc, je ne sais pas partir à la prépension. Et le gouvernement ne veut pas mettre la main là-dedans. Et quand on leur demande de travailler sur la pénibilité, ben ils ne veulent pas, parce que c'est l'organisation du travail qui fait que c'est pénible. Et donc, c'est remettre en cause tout un système qu'ils ont autorisé. Productivité et capitalisme, c'est quand même le gouvernement actuel. Hein. Et donc, tant qu'ils ne réfléchissent pas sur vraiment faire le lien santé, travail, et ce que ça pourrait amener de mieux organiser le travail, qu'il y aurait moins d'accidents, moins de malades, moins de chômage, ben, ils auront tout compris.
Au niveau de chacun, au niveau où chacun est, ben en fait, on a tous là où on est des gens qui nettoient, pour nous. Donc l'effort de regarder, de reconnaître, de visibiliser, il est déjà personnel de chacun. C'est-à-dire de mieux se rendre compte qu'il y a quelqu'un là et de le repérer, de lui donner sa place symbolique dans sa tête. Ça, c'est un effort que chacun peut faire et qui donne un sens et un regard, un bonjour, un merci, ça change aussi les choses. Se poser des questions sur ce qui s'y passe, demander à savoir ce qui s'y passe. Et donc aussi, ouvrir la porte pour être un interlocuteur, pour être un porte-voix. Et on pourrait encore aller plus loin et en réfléchissant, au fond, est-ce que ça, si on y réfléchit, est-ce que c'est bien normal qu'on décide qu'il y a un certain nombre de tâches qu'on délègue à d'autres personnes? Pourquoi? Parce qu'on les trouve trop désagréables à faire. Est-ce que dans une société digne, c'est normal qu'on puisse se dire, telle tâche, j'ai pas envie de la faire, donc je vais demander à quelqu'un d'autre. Je vais demander à quelqu'un de se déplacer pour moi, c'est ce qui joue aujourd'hui avec tous les livreurs. Je vais demander à quelqu'un de nettoyer pour moi. Mais là, on pourrait quand même se poser la question, on pourrait imaginer des systèmes de rotation. Donc, est-ce que ça va plus loin, hein, c'est-à-dire se dire, est-ce que au fond, est-ce que c'est, je vais vous choquer, mais est-ce que c'est les jeunes? Donc, est-ce que c'est un moment de sa vie où tous les jeunes, on prend cette part parce que, ben, un jour, on est plus jeune, donc ça tourne. Il y a des pays dans lesquels il y a cette discussion, il y a des pays dans lesquels les élèves, par exemple, nettoient en partie leur classe. Et donc, il y a une rotation des élèves et qui, bien sûr, en plus, permettent de mieux comprendre ce que c'est que cette tâche, mieux voir leur importance et sans doute chercher ensuite à ce qu'elle soit faite de la manière la plus digne et de la meilleure possible.
Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estar agotado? Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra.
Ce que je veux dire, j'ai dit aux gens, la lutte paye. Mais il faut tenir. Ça sert à rien d'accepter le mépris des patrons. Si on est organisé, si on s'attend, on est unis, on est un bon syndicat, on peut se mettre en grève. La grève est dure, oui, c'est dur, c'est pas facile. Mais la lutte n'a jamais été facile. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est la lutte.
Quand on y réfléchit, en fait, nettoyer, c'est le premier acte par lequel on prend soin des gens. Quand on voit quelqu'un qui va pas bien, il y a le bazar chez lui, la première chose qu'on peut faire pour aller mieux, c'est de lui nettoyer sa chambre, de ranger. Enfin, on voit bien que c'est un acte de soin. Et il y a très clairement une fierté de ce travail. On a pu discuter avec des salariés qui sont fiers de ce qu'ils réalisent. Mais pour qu'ils soient vraiment fiers, il faut quand même qu'il y ait un retour sur soi. Il faut être en contact avec les gens, il ne faut pas rentrer tard, il faut pouvoir voir que quelqu'un a vu son travail et en avoir un retour.
Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará. Tengo el puño esperanzado porque todo cambiará.
Merci à Evelyne, Catherine, Rachel, Julie et la Ligue des travailleuses domestiques. Avec la guitare de Dan Samir Morillo. Un podcast réalisé par Juliette Cordemons, Lou Lampart et Nadia Vossen.